sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Je vous ai lu dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 15, les versets 22 à 26. Ce matin, suite à la lecture de ce passage, j'aimerais préciser que je ne parlerai pas de Jésus, ni de son sacrifice. Alors, pourquoi ai-je lu ce texte si je n'aborde pas le sujet en question? Un mot, et un seul, sera le fil rouge de cette prédication. Alors, je vous rassure, je n'ai pas choisi le mot vinaigre, mais plutôt cet objet en bois, devenu synonyme de la mort chez certains et de la vie chez d'autres, la croix. Il est intéressant de se dire que la croix était à l'origine un arbre, peut-être même un chêne fort présent en Israël. Sans doute ne s'attendait-il pas à être coupé, puis taillé pour devenir un objet de supplice et de torture. Peut-être s'attendait-il encore moins être la croix qui, plus tard, deviendrait un tel symbole de par son crucifié. J'aimerais aborder ce matin le point de vue de 3 personnages bibliques qui ont connu la croix de manière directe ou indirecte. Ces 3 personnages ne se connaissaient probablement pas, mais sont liés malgré eux à cet objet en bois. Je parle de Judas, de Barabbas et de Simon de Cyrène. Judas. Je lirai dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, les versets 14 à 16. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, les versets 14 à 16. Alors, l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander: « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous ? » Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Judas était un proche de Jésus. Il le connaissait personnellement. Ils avaient traversé ensemble un certain nombre de péripéties. Sans doute avaient-ils ri ensemble, pleuré ensemble, prié ensemble. Judas avait vécu avec Jésus. Il avait voyagé avec lui, avait été témoin de ses nombreux miracles, avait entendu sa bonne nouvelle et avait eu devant les yeux l'exemple d'une vie sans péché. Il est difficile de dire quand est-ce que l'amour de l'argent a commencé de grandir dans son cœur. Peut-être. Peut-être avait-il toujours été là. Judas a laissé enraciner dans son cœur un mal qui, alimenté par un manque de confiance, le conduisit à l'incrédulité, à l'orgueil et à l'appât du gain. Le cœur de Judas s'endurcit de jour en jour à cause du péché, et cela malgré sa proximité avec le Christ. Animé par Satan, il finit par livrer ses actions à la puissance des ténèbres et Jésus à la justice romaine. Judas se rend chez les prêtres. Il leur pose alors l'une des questions les plus révoltantes de toute la Bible. Quelle somme me donnerez-vous ? Pour ne pas avoir fixé de somme de départ, sans doute n'attendait-il pas grand-chose de ce marché. Et le maigre salaire qu'il accepte de recevoir nous le confirme. 30 pièces d'argent étaient l'équivalent de la valeur d'un esclave. En préparant cette prédication, je suis tombé sur une petite anecdote. L'argent avait été pris dans le trésor du temple, trésor qui servait à l'achat des animaux expiatoires. Ainsi, l'agneau de Dieu, offert gratuitement pour l'expiation de l'humanité, avait été acheté avec l'argent du trésor prévu à cet effet. Jésus n'avait pas permis à Judas de s'enrichir. Maintenant que Jésus parlait de rejoindre son Père céleste, il n'avait plus aucune chance pour lui de devenir le richissime trésorier officiel du roi, le Christ. L'avarice est un piège tragique. Quelle que soit la somme convoitée d'ailleurs. Quand les actes de malhonnêteté endurcissent le cœur, les hommes n'hésitent pas à commettre les péchés les plus méprisables. Un détail est toutefois fort étonnant. Judas n'avait pas prévu le résultat de sa trahison. Il n'avait pas prévu que son maître serait crucifié sur la croix à cause de son péché. Il n'avait pas anticipé sur l'ampleur que prendrait son péché. Sans doute est-ce pour nous un enseignement, car cela prouve que nul d'entre nous ne peut calculer à l'avance les conséquences d'un péché commis. Par la suite, Judas attendra le bon moment pour arrêter Jésus, qui sera livré à la croix. Quelle coïncidence ! À cause de son péché, Judas rencontre la croix. Il la côtoie. Il la provoque. Judas provoque la croix. Barabbas. Je lirai dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27, les versets 20 et 21. Matthieu 27, les versets 20 et 21. Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?»« Barabbas !» crièrent-ils. Barabbas était peut-être le pire des criminels incarcérés à ce moment-ci. La tradition dit de lui qu'il tua lors d'un vol. Le verset 16 de ce chapitre explique qu'il était un prisonnier célèbre. Ses crimes avaient été si graves que le peuple parlait beaucoup de lui. Je ne pense pas que le peuple avait de l'admiration pour Barabbas. Barabbas était célèbre malgré lui, comme l'est, par exemple, le copilote Andreas Lubitz, dont les médias nous ont beaucoup parlé ces derniers temps. Le gouverneur essaie de rendre une justice la plus équitable que possible. Il se rend vite compte, par ses entretiens, qu'il n'y a rien de condamnable en Jésus. Barabbas était un tel criminel que Pilate le propose aux Juifs en échange de Jésus, espérant que jamais le peuple ne préférerait un tel malfaiteur. Mais, comme l'observe Luther, il lui aurait préféré le diable lui-même. La coutume selon laquelle le gouverneur libérait un criminel sur la volonté du peuple lors de la Pâque est inconnue des textes anciens. On n'en parle ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Talmud. C'était une coutume qui probablement était établie par les Romains pour garder un certain contrôle sur le peuple juif, réputé à Rome pour ses révoltes. Et Pilate saute sur l'occasion de cette coutume et demande à la foule : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Le peuple, sous la forte influence des chefs religieux, préféra un malfaiteur à celui dont même Pilate reconnaissait l'innocence. La nation juive n'a pas seulement rejeté Jésus, mais elle a choisi Barabbas, un brigand, un criminel, pour le remplacer. Qu'est-ce qui peut mieux montrer la malhonnêteté du cœur humain ? Sous l'influence de la foule, des médias, de la mode, nous sommes nous aussi parfois tentés de défendre le criminel face à l'innocent. Quelle coïncidence ! Barabbas, qui sans doute était condamné à mort, rencontre la croix. Il la côtoie et il lui échappe. Barabbas échappe à la croix. Simon de Cyrène. Je lirai dans le même évangile, au même chapitre, donc Matthieu, au chapitre 27, le verset 32. Matthieu, chapitre 27. Le verset 32. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils lui firent porter la croix de Jésus. Qui est Simon ? Un passant ? Un étranger ? Un inconnu, un paysan qui tombe au bon moment au bon endroit. Simon est père d'Alexandre et de Rufus, converti aux enseignements du Christ. Il est originaire de Cyrène, située dans le nord de l'Afrique, où se situe une diaspora juive conséquente. Peut-être était-il juif, peut-être était-il chrétien, peu importe. Simon rentre du travail dans les champs. Lorsqu'il tombe sur le cortège, constitué d'une grande foule de juifs, de chefs religieux, de soldats romains et de Jésus, fatigué, blessé, titubant sous le poids de sa propre croix, sur laquelle il sera cloué dans quelques instants. À ce moment-ci, que dire des soldats romains? Ont-ils eu pitié de Jésus? Trouvaient-ils la marche trop lente? Avait-il envie de faire souffrir quelqu'un d'autre dans la foule? Impossible à dire. Les soldats contraignent Simon de porter la croix de Jésus. C'est sans doute pour Jésus un grand soulagement de trouver en Simon un peu de repos, tandis que sa condition physique ne lui permet plus de porter cette croix davantage. Cet épisode illustre l'un des aspects les plus saisissants de l'humanité du Christ. Chargé de toutes les faiblesses humaines, telles que la douleur ou la fatigue. De nombreux théologiens ont cherché à savoir si Simon avait porté la croix à la place de Jésus ou avec Jésus. Vous comprendrez que l'important n'est pas là. Ce que nous devons retenir, c'est que Simon obéit à l'ordre donné et porte la croix de l'innocent. Porter sa croix est devenu par la suite une expression qui signifie traverser une épreuve difficile. Dans l'Église du Christ, porter sa croix signifie persévérer dans la foi, persévérer dans la sainteté. Tandis qu'à l'extérieur de l'Église, l'expression a une forte connotation négative. Elle est pour nous tous un but à atteindre dans notre quotidien. Simon n'a pas le choix. Les soldats le forcent à porter cette croix. Toutefois, s'il n'y avait pas eu cet ordre, pensez-vous que l'un d'entre la foule se serait opposé aux soldats qui infligeaient à Jésus une grande souffrance? Aujourd'hui, aucun ordre ne nous force à porter cette croix. Dieu nous laisse libres, face à Jésus, de s'approcher de lui ou non. Jésus est mort pour que nous ayons le privilège de porter sa croix, tel Simon. Souvenons-nous alors de son enseignement. Mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Cette année, les anciens nous proposent d'être ouvriers avec Dieu. N'est-ce pas là l'occasion de répondre à l'appel de Dieu qui nous invite à porter la croix de son Fils au sein de son Église? Évidemment, ni Dieu, ni Jésus, ni le Saint-Esprit ne sont des soldats qui contraignent et obligent. Être ouvrier avec Dieu, c'est avant tout choisir de l'être. Tandis que les Romains n'offrent pas le choix à Simon, Dieu nous laisse libres de le servir ou non dans son Église. C'est un grand privilège. Toutefois, il faut être conscient d'une chose. Porter la croix n'est pas toujours simple ni plaisant. Cela implique parfois de redéfinir nos priorités. Je nous encourage, dans la semaine qui s'ouvre à nous, à prier au Seigneur ces quelques mots. Puissions-nous être prêts à porter la croix que tu nous as destinée. Puissions-nous être prêts à porter la croix que tu nous as destinée. Porter la croix devait être physiquement pénible. Toutefois, je suis persuadé, bien que le texte ne nous le dise pas, que Simon en a retiré une immense fierté. Quelle coïncidence ! Simon, qui était de passage, rencontre la croix, la côtoie et la porte. Simon porte la croix. J'en viens à la conclusion. Judas provoque la croix. Barabbas échappe à la croix. Et Simon porte la croix. Sans doute, la croix ne s'attendait-elle pas, suite à son déracinement, rencontrer ces trois hommes. Elle les rencontre tous les trois dans des circonstances tragiques. Elle nous rappelle qui nous sommes face à elle. Nous sommes tous des Judas, dans le sens où nous aussi, par nos péchés, nous avons provoqué la croix. Nous sommes tous des Barabbas, dans le sens où nous aussi, nous avons échappé à la croix. Nous sommes tous des Simon, dans le sens où nous aussi, nous sommes appelés à porter la croix. Nous devons prendre conscience de ce que signifie pour nous porter la croix et ce que cela implique dans notre vie. Pour certains d'entre nous, cela n'implique peut-être pas grand-chose. Mais pour Jésus, l'innocent qui a porté sa propre croix, pour lui, cela implique beaucoup. Je nous invite donc ce matin à marcher avec persévérance, pas après pas, dans le souvenir du Christ ressuscité et dans l'attente de son proche retour. Amen. Je vous invite à vous lever, j'appelle les musiciens et nous allons